Bienvenue dans votre magazine Vie solidaire sur Radio Alpes-Mancelles. Un magazine social qui parle des associations, du handicap et de la société. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Vie solidaire sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Pour ce magazine aujourd'hui, nous allons parler de l'association sartoise des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Saint-Michel, Compostelle 72. Pour cela, nous recevons Jean-Yves Potier, adhérent, membre du conseil d'administration et bien sûr délégué sur le Nord-Sarthe de cette association. Monsieur Potier, bonjour.
Bonjour.
Dans un premier temps, présentez-nous cette association Compostelle 72, peut-être l'histoire même de cette association.
Alors, Compostelle 72 est l'une des associations départementales qui maille le territoire et qui a pour vocation d'abord de s'occuper sur le terrain départemental du balisage des chemins, des grands chemins de pèlerinage, en l'occurrence Compostelle et le Mont-Saint-Michel. Et sa seconde vocation, c'est d'accueillir et de conseiller les Sartois qui veulent partir parce que c'est une aventure un petit peu particulière. Et donc, les membres de l'association ayant tous cette expérience peuvent conseiller ce qu'on appelle les candidats au départ sur des plans tels que l'hébergement, la constitution du sac, le choix des chaussures et des choses à la fois pratiques et très diverses.
Et qui est à l'origine concrètement justement de cette association ?
Alors écoutez, j'ai pas l'historique parce que je suis un adhérent relativement récent, mais dans tous les départements, alors parfois ce sont des associations régionales également, mais dans tous les départements et régions où des associations identiques existent, ce sont en fait d'anciens pèlerins qui se sont rencontrés, se sont retrouvés, ont décidé de promouvoir ces chemins historiques, culturels et spirituels que sont les grandes voies de pèlerinage.
Et le but poursuivi par l'association ?
Alors, sur le terrain, l'association a deux tâches principales. La première, c'est d'assurer le balisage des chemins qui mènent à ces grands sites pèlerins. La seconde, c'est d'accueillir et de conseiller ce que l'on appelle les candidats au départ, c'est-à-dire les Sartois qui veulent partir vers ces destinations et qui ont besoin de conseils pratiques de toutes sortes. Nous allons également essayer de développer, je suis un peu en charge de ça au sein du conseil d'administration, de développer l'hébergement, puisque si sur les grands chemins au départ de Tours, par exemple, en ce qui nous concerne, ou au départ de Vézelay ou du Puy-en-Velay, on trouve des hébergements en quantité et qualité suffisante en général pour la demande de pèlerins qui fréquentent ces chemins. En revanche, sur les chemins que j'appellerais des chemins de rabattement, pour nous, ce qui nous concerne, c'est un chemin qui va de Caen à Tours pour rejoindre la grande voie de Tours. Je parle pour Compostelle, hein. Sur ces chemins, nous sommes un peu pauvres en hébergement de type pèlerin. Nous avons évidemment des hôtels, des chambres d'hôtes, des choses comme ça, mais des hébergements spécifiquement pèlerins manquent un peu, donc on va essayer de développer ça.
Et qu'est-ce qu'un hébergement type pèlerin ?
Excellente question. Alors d'abord, quand on part sur les chemins pour plusieurs mois avec un sac de 10 kilos, on s'installe dans une espèce d'ascétisme dans son mode de vie. Donc, on n'a pas besoin d'une chambre d'hôtel très confortable. Un lit, une douche avec un toit sur la tête, ça suffit. Donc, des hébergements pèlerins, c'est souvent des dortoirs ou des chambres collectives avec des lits superposés, tout simplement. Ça, c'est le premier aspect. On sait ce que recherche le pèlerin. Alors, il y a un aspect aussi financier. Puisque même si on n'est pas très pauvre, si on a quelques moyens, si on part en week-end, par exemple faire de la randonnée, faire une boucle de randonnée, on peut s'offrir une nuit ou deux d'hôtel à 60 ou 100 euros. Par contre, lorsqu'on est dans ce qu'on appelle la grande itinérance, c'est-à-dire plus de 6 nuits consécutives à l'extérieur, on comprend bien que, moi je suis parti 2 mois et demi par exemple pour aller à Saint-Jacques consécutif, on comprend bien que 30 jours à 100 euros, ça dépasse largement les revenus de la plupart des gens. Donc l'hôtellerie classique n'est pas adaptée à cette demande. Par contre, l'intérêt pour les hôteliers, c'est que les pèlerins aussi, le soir, on mange. Et donc, ça peut être des clients du restaurant. Mais ça ne sera pas, sauf exception, parce qu'une fois de temps en temps, on peut s'offrir une chambre d'hôtel, ça ne sera pas des clients pour l'hôtellerie classique. On a aussi des hébergements qui sont parfois dans les presbytères, parfois des hébergements chez des particuliers qui souhaitent accueillir des pèlerins. Et ces hébergements sont soit complètement bénévoles, soit ce qu'on appelle en jargon, enfin en espagnol, donativo, c'est-à-dire on donne ce qu'on veut. Alors, c'est à la libre discrétion du pèlerin et de son hôte, mais lorsqu'on nous demande conseil, on considère qu'une participation de 20 à 25 euros pour un dîner, une nuit, un petit déjeuner est raisonnable et convenable. Voilà.
On va revenir un petit peu au niveau de l'association et notamment comment elle fonctionne, l'association.
Bah écoutez, elle fonctionne comme toute association, hein, avec un bureau, un conseil d'administration, une assemblée générale annuelle. Puis à l'intérieur, des tâches réparties. Il y a une équipe qui s'occupe du balisage. Je n'en fais pas partie parce que c'est vraiment une technique particulière. J'ai des camarades qui sont plus compétents que moi. Moi, je vais me mettre en quête d'hébergement. J'ai commencé d'ailleurs sur le secteur ici, en rencontrant la paroisse, le syndicat d'initiative, divers professionnels qui seraient susceptibles d'adapter leur offre à cette demande particulière.
Et notamment des adhérents, hein, dans cette association. Comment on devient adhérent ?
Alors, on dit adhérent parce que, ben grâce à vous, parce qu'on entend parler dans les médias, parce que nous organisons chaque année une soirée témoignage qui permet à ceux qui ont parcouru les chemins dans l'année précédente de venir témoigner et donc à des futurs candidats au départ de venir à la fois les rencontrer, entendre leur expérience. On dit adhérent parce qu'on a vu une permanence qui se tient au Mans et on va voir les amis pèlerins qui tiennent cette permanence. On dit adhérent parce qu'on rencontre quelqu'un tout simplement, voilà.
Et concrètement, votre rôle à vous en tant que délégué sur le Nord-Sarthe ?
C'est d'abord d'accueillir les gens du Nord-Sarthe, et j'en accueille 3 ou 4 par an quand même, hein. Même d'Alençon d'ailleurs, parfois. Donc les accueillir, c'est-à-dire les rencontrer, et puis avoir un échange avec eux sur leur projet de voyage, sur un certain nombre de conseils, de bonnes adresses aussi, parce qu'on a sur le long du chemin de bonnes adresses. Bon, j'ai également, après mon périple, j'ai également écrit mon journal du chemin, qui fait 100 de pages, donc en général, je leur communique en version numérique, ce qui leur donne aussi quelques références. On peut conseiller quelques ouvrages qui sont soit des ouvrages, des témoignages de pèlerins, soit des ouvrages pratiques, des guides, etc. Alors nous avons également édité et nous vendons des guides des chemins qui traversent la Sarthe. Et nous vendons également, j'allais oublier de vous en parler, un élément tout à fait important qui est ce qu'on appelle la crédentiale. Alors la crédentiale, c'est le passeport du pèlerin et doit être agréé, validé, alors soit par une paroisse, soit par une association jacquaire, puisque c'est comme ça qu'on appelle nos associations de Saint-Jacques, signé, validé, et l'engage le pèlerin et lui permet de bénéficier justement de ces hébergements pèlerins, et il doit au moins une fois par jour faire tamponner sa crédentiale à l'endroit où il se trouve, alors soit chez son hébergeant, soit au presbytère, soit à la mairie, soit à la gendarmerie, soit au café du coin, peu importe. Bon, certains font tamponner plusieurs fois par jour et collectionnent ainsi les tampons, ce qui donne des souvenirs assez agréables, parce qu'arrivé à Saint-Jacques, c'est sur le vu de cette crédentiale que le pèlerinage sera reconnu par l'évêché de Saint-Jacques-de-Compostelle et donnera lieu à la délivrance d'un diplôme, écrit en latin d'ailleurs, et qui s'appelle la Compostella. Voilà.
Alors cette association, c'est pour quel pèlerinage au final ?
Alors, chez nous, les chemins qui traversent la Sarthe fonctionnent dans les deux sens. Dans un sens vers le sud, ils vont vers Saint-Jacques-de-Compostelle, et vers le nord, ils vont vers le Mont-Saint-Michel. Alors, en deux mots, les deux chemins principaux qui traversent la Sarthe, c'est, comme je vous ai dit, le chemin qui vient de Caen vers Tours, qui entre dans la Sarthe au nord, tout près de Sassenerie, à Saint-Léonard-des-Bois, et qui en sort au sud de Château-du-Loir en passant par Fresnay, Beaumont, Le Mans, etc. Ça, c'est le chemin vers Compostelle, mais ce chemin aussi, dans l'autre sens, va vers le Mont-Saint-Michel, où il va rejoindre dans l'Orne un chemin du Mont-Saint-Michel qui fait est-ouest, qui vient de Chartres pour aller vers le Mont-Saint-Michel, en passant par Alençon. Donc, on rejoint ce chemin, on tourne à gauche et on va vers le Mont-Saint-Michel. Et puis, il y a un deuxième chemin qui, lui, est plus spécialement michaélique, puisque c'est l'adjectif pour le Mont-Saint-Michel, qui est ce qu'on appelle le grand chemin montois. Ce grand chemin montois, comme son nom l'indique, va vers le Mont-Saint-Michel, évidemment, par du Mans, par plein nord-ouest, via Conly, Sillé, la Mayenne et Saint-Jacques dans la Sarthe et le Mont-Saint-Michel. Mais pour les Silléens ou les Conlinois qui voudraient aller vers Saint-Jacques, ils peuvent évidemment le prendre dans l'autre sens pour aller rejoindre le Mans, puis rejoindre Tours.
Et d'ailleurs, vous avez vous-même fait ce pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Comment s'est déroulé justement ce pèlerinage pour vous ? Comment il a été préparé ? Votre histoire.
Alors, mon histoire, j'ai fait le choix à l'ancienne parce que j'avais le privilège d'être fraîchement en retraite, donc très disponible. L'autre privilège d'avoir une épouse tout à fait compréhensive et qui ne voyait pas d'inconvénient à ce que j'entame cette aventure de cette manière. Elle travaillait encore à l'époque, ce qui facilitait aussi les choses puisqu'elle était un peu occupée. J'ai fait le choix, donc à l'ancienne, comme au Moyen-Âge, de partir de chez moi, du seuil de ma maison. On ferme la porte et on tourne le coin de la rue et on a déjà Saint-Jacques-de-Compostelle en ligne de mire. Donc, je suis parti de chez moi, j'ai rejoint évidemment le Mans. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle la voie de Tours. Et puis en Espagne, j'ai pris la voie la plus classique qui est le Camino Francés, le chemin français, qui regroupe 80% des pèlerins qui arrivent à Santiago. Ce périple a représenté 1600 km de marche et 75 jours, 2 mois et demi. Voilà, et je l'ai fait entre le 18 août 2019, juste avant le Covid. Et je suis arrivé le 31 octobre à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Et quelle a été votre décision justement pour faire ce pèlerinage ?
Alors, c'est une vieille idée, parce que j'avais plusieurs amis qui l'avaient fait et qui m'en avaient parlé, m'avaient donné envie, mais vous savez, ça fait partie des choses. Il y a des tas de choses qu'on rêverait de faire, puis qu'on fait ou qu'on fait pas, parce que je dirais, le rêve est pas suffisamment fort pour qu'il se concrétise. Mais là, il s'est concrétisé. Alors, comme je vous ai dit, en 2014, j'avais des fonctions d'élu avant, qui ont cessé en 2014, donc je me suis retrouvé disponible de ce côté-là. En 2016, je me suis retrouvé en retraite professionnelle, et ma femme travaillait encore pendant 2-3 ans. Et donc, je me suis dit, c'est le moment, j'avais 65 quand j'étais en forme, j'avais les moyens matériels, financiers de pouvoir entreprendre ce genre de choses. Et donc voilà, je suis parti sans trop savoir où j'allais, en me disant que peut-être à Tours j'aurais une tendinite énorme et je remonterais dans le train. Peut-être pas. Voilà. Et puis le sort a voulu que j'arrive au bout en bon état et j'en suis très heureux.
pagaie, pagaie sur cette vieille loi. Pagaie, pagaie, t'arriveras nulle part. Héron, héron, là-haut guetteur. Vois-tu, vois-tu ailleurs. Bout de bois, beau caoutchouc. Flotte-moi, flotte-moi plus loin que chez nous. Baigne-moi, baigne-moi, tu m'as menti. Ailleurs, ailleurs, c'est comme ici. Rame, rame, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Tais-toi et rame. Je m'en vais, mais l'eau est lasse. Chaumont, Langeais à peine en boise. Amour, cordon, ficelle serrée. Lâchez, lâchez, je veux m'en aller. Rame, rame, rameur, ramé. On avance à rien.
Et qu'est-ce que, justement, ce voyage, ce pèlerinage vous a apporté ?
Alors, ça, c'est vraiment la question fondamentale. Avant de partir, les amis anciens pèlerins qui me conseillaient ou qui témoignaient me disaient « Tous les pèlerins vous diront ça, sur le chemin, il se passe quelque chose. » Alors, ce quelque chose, c'est quoi ? Bah, écoutez, j'en sais rien. Vraiment, je pourrais difficilement le définir. Et si je pouvais le définir, c'est quelque chose d'assez intime et j'aurais peut-être quelques réticences à le dévoiler devant vos auditeurs. Bon, on parle de pèlerinage. Bon, c'est historiquement le chemin de Saint-Jacques et le chemin de Mont-Saint-Michel. Ce sont des pèlerinages catholiques. Hein. Faut pas se tromper ni se voiler la face. Ce sont des pèlerinages catholiques et ils ont ce caractère. Mais cette religion est extrêmement tolérante et donc accueille tout le monde. Donc pour moi, c'est un cheminement spirituel dans lequel la religion n'est pas nécessairement absente, entendons-nous bien, hein, mais n'est pas l'unique motivation. Donc vous avez effectivement globalement une motivation spirituelle. Pour moi, il y a aussi une motivation historique parce que je suis assez passionné par l'histoire et notamment celle du Moyen-Âge. Culturel, voilà, patrimonial, donc il y a beaucoup de dimensions. Mais revenons à ce cheminement spirituel, en fait ça s'impose à vous petit à petit, parce que vous vous mettez vous-même dans un certain état de dépouillement. Oui, alors il y a un adage sur le chemin qui dit 10 jours pour le corps, 10 jours pour l'esprit, 10 jours pour l'âme. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, d'où l'intérêt de partir longtemps. Si vous partez 8 jours, vous faites de la rando. Ce qui est très bien aussi, hein. Je ne critique surtout pas la rando, c'est une activité très louable et respectable. Mais si vous partez 8 jours, vous faites une rando. Peut-être que vous la faites sur les chemins de Compostelle, mais ça reste une rando, c'est-à-dire un exercice physique où vous profitez du bon air, de la beauté des paysages et du patrimoine rencontré. Donc il faut partir un certain temps pour descendre un peu en soi, avec cette espèce d'ascétisme que vous vous imposez, et qui est au bout d'un moment très agréable, le fait que chaque jour, votre seule préoccupation, c'est de trouver un toit, une douche, un lit et un bon repas. Enfin, quand je dis un bon repas, ça peut être un repas très simple, hein, parce que de toute façon, après 30 km de marche, tout vous paraît excellent, tout ce qu'on vous met devant le nez vous paraît excellent. Et rien d'autre. Alors, je raconte toujours une anecdote. Le jour de mon retour, je prends ma voiture qui était restée sous le garage pendant près de 3 mois pour aller faire une course, enfin voilà, une situation extrêmement banale de la vie quotidienne. Et il se trouve que j'ai une maison avec une cour, un jardin et un portail automatique électrique. Et je prends la télécommande qui se trouve toujours dans la boîte à gants de ma voiture et elle ne marche pas, parce que la pile est morte. Au bout de 2 mois et demi, c'est normal. Et donc, ce micro problème domestique, vous voyez, m'a pris la tête pendant tout l'après-midi. Parce qu'il faut aller acheter la pile, trouver la bonne. On trouve pas ces piles plates, on les trouve pas partout, donc il faut parfois faire en haut de magasin. Ensuite, la pile usagée, il faut la mettre dans la bonne filière de recyclage, parce qu'on nous dit que c'est très dangereux, je crois que c'est vrai d'ailleurs, donc il faut, etc. Donc vous voyez, un micro problème domestique comme ça, confortable, agréable, je suis très content d'avoir bénéficié de ce genre de confort, mais vous prend la tête pendant plusieurs heures, vous voyez. Et vous avez d'autres préoccupations, la réparation de la chaudière, le ramenage de la cheminée, la tonte de la pelouse, enfin bref, au quotidien, même quand vous êtes retraité dans des conditions agréables, vous avez au quotidien tout un tas de problèmes domestiques comme ça à régler, qui fait que le travail de l'esprit est un peu perturbé par la vie quotidienne, encore une fois, que je ne réfute pas, que je trouve très agréable, et que j'aime beaucoup. Je ne suis pas parti au retour élever des chèvres dans le Larzac, soyons clairs. Hein. J'ai repris ma vie bourgeoise avec bonheur. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous vous mettez dans cette situation d'ascétisme sur le chemin, vous êtes libéré de tout ça. Et d'abord, vous vous dites que si vraiment un jour vous aviez des gros ennuis, vous pourriez vous en passer finalement. Enfin, ce ne serait pas si grave. Bon. Puis la deuxième chose, c'est que vous êtes complètement disponible à vos propres réflexions, sensations, émotions, à ce qui vous entoure, c'est-à-dire le patrimoine naturel est bâti, et aux autres. Donc il y a une disponibilité complète qui vient par la marche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est une deuxième dimension, c'est que lorsqu'on a, comme c'est mon cas, 65 ans, on a une carrière professionnelle riche, etc., une vie de couple, 3 grands-enfants, quelques années de mandat municipal, etc. Donc on a fait un certain nombre de choses et c'est aussi un peu l'heure du bilan. Et dans tout ce qu'on a fait, il y a des tas de choses formidables, il y a aussi des choses qui sont moins bien, des rencontres pas agréables, etc. Ce que j'appelle les scories de la vie. Et en fait, on se dépouille un peu de tout ça et on garde que le bon. Ce qu'on a fait de bien, les gens bien qu'on a rencontrés, les situations agréables ou intéressantes où on a pu agir positivement, etc., etc. Donc, si vous voulez, on fait un espèce de bilan et on nettoie un peu, encore une fois, les scories, quoi. Toute la poussière qui est sur le paletot, on l'a fait un peu tomber pour repartir un peu neuf. Et puis, quand on a 65 ans, qu'on est en bonne santé, qu'on a une situation sociale convenable, je ne suis pas riche, mais enfin, j'ai une vie très confortable, qu'on a donc de la vitalité, des moyens et l'envie. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que maintenant, j'ai fait tout ça, ça s'est un peu arrêté. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'utile dans la vie pour remplir ces années qui me restent aussi, en espérant qu'elles soient longues, mais ces années en bonne santé surtout, parce qu'après, vous avez le problème de la maladie, du vieillissement, etc. Bon, je ne suis pas encore concerné par ça, Dieu merci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est aussi cette réflexion de donner un sens à cette troisième partie de sa vie, en quelque sorte.
Oui, donc on aura bien compris, hein. Ce voyage vous a appris beaucoup de choses, vous a apporté beaucoup de choses. Est-ce que justement, vous aviez déjà en lien avec l'association à cette époque, lors de votre voyage?
Oui, bien sûr. Relativement récent, puisque j'ai contacté l'association un mois avant mon départ pour me procurer le guide pour m'amener jusqu'à Tours. Et j'ai rencontré donc la présidente de l'époque, Elisabeth Maurice et son mari Claude, qui sont des gens assez formidables et engagés, qui d'abord ont commencé par me dire « quand tu passes au Mans, tu dors chez nous, très bien ». Voilà, ça c'est l'esprit Compostelle. Oui. Donc effectivement, j'ai eu ce lien, mais qui a tout de suite été de plein pied, si vous voulez. Mais il était récent et évidemment, j'ai adhéré à l'association et puis au retour, on m'a naturellement proposé de venir y travailler un peu, ce que j'ai accepté bien volontiers.
Est-ce que vous avez des conseils à donner aux futurs pèlerins?
Alors d'abord, leur dire que c'est possible. Alors évidemment, comme ça, à froid, quand on vous dit vous allez marcher pendant 75 jours à faire 1600 km, ça paraît vertigineux. Surtout que moi, je ne suis pas spécialement sportif, si vous voulez. Je suis plutôt un mode de vie un peu épicurien, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, ça se voit un peu. Bon. Mais je vais vous dire, même au retour, J'ai beau les avoir faits et savoir que je les ai faits, intellectuellement je sais que je les ai faits, mais je réalise toujours pas que j'ai fait 1600 km à pied. Alors en fait, on fait pas 1600 km, on fait 20 km par jour. Et puis le lendemain, on fait 20 km par jour. Vous savez, c'est la fameuse continue scout, hein, la fameuse façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Ben, c'est ça, en fait. On part, on fait sa vingtaine de kilomètres. On va pas au bout de ses forces, surtout. Parce que sinon, au bout de 3 jours, on a une tendinite et on rentre. Hein. Donc il faut se ménager, avoir la perspective du nombre de jours qui restent. Alors en ce sens, c'est très différent d'une activité sportive. Dans une activité sportive, je ne mets pas de hiérarchie entre les deux. Je veux simplement souligner les différences. Et ces différences m'ont été confirmées par des gens qui sont expérimentés dans les deux domaines. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois des sportifs de haut niveau et des pèlerins. Dans une activité sportive, vous avez toujours peu ou prou une notion de performance et de dépassement. Sinon, ça ne sert à rien de faire du sport. C'est la motivation, c'est celle-là. C'est de faire mieux. Mieux que qu'on a fait la dernière fois. Mieux que l'adversaire en présence de qui on se trouve à l'instant T. Cet état d'esprit du sportif, il faut absolument l'oublier quand on est pèlerin. On est en compétition avec personne, même pas avec soi-même. Il s'agit pas de dire, j'ai fait 22 km aujourd'hui, je vais en faire 25 demain. Et puis, parce que dans 3 jours, vous en ferez 30 et vous rentrerez en train avec une tendinite. C'est écrit, si vous voulez. Alors, même si vous êtes prudent, vous pouvez avoir une tendinite. Hein. Une tendinite ou des ampoules qui tournent très mal, etc. Mais il faut vraiment écouter son corps et se fatiguer d'une façon qui permette de récupérer dans la nuit. Un bon dîner, une bonne nuit. Et le lendemain matin, vous repartez à neuf. En plus, ça guérit en étant un peu plus entraîné, entre guillemets, parce que les 10 premiers jours sont très compliqués. Hein. Lorsqu'on n'est pas vraiment sportif, moi, je marche pas non plus beaucoup. Je vais aux champignons de temps en temps, ou je marche un peu en ville. Mais bon, les 10 premiers jours, le soir, vous avez des douleurs partout, aux articulations, aux muscles, etc. Moi, je me soignais avec 1 gramme d'aspirine. Et puis, ça allait. Sinon, on a toute la soirée, on est endolori de partout. Et puis, au bout de 10 jours, un beau jour, vous sortez de la douche l'après-midi après votre arrivée, et puis vous avez plus mal nulle part. Terminé, le corps est adapté, vous avez perdu déjà 1 ou 2 kilos, donc ce qui en plus est toujours bon à prendre. Et ensuite, il faut vraiment aller à son rythme. Je ne peux pas vraiment donner de conseils. Pour ce qui me concerne, j'ai fait une moyenne de 21 km par jour pendant ces 75 jours, avec certains jours où j'ai pas, 2 jours où je n'ai pas marché du tout. Donc, certains jours, vous pouvez dire, là, je fais une pause, je reste 2 nuits au même endroit. D'autres jours, vous pouvez dire, ça m'est arrivé au bout de 15 km, j'en ai marre, il pleut, j'ai pas la pêche aujourd'hui, j'ai mal quelque part, je m'arrête au bout de 15 km. Puis d'autres jours, parce que j'ai fait jusqu'à 31 km. Rarement, mais 27-28 assez couramment quand même. Hein. Ça dépend aussi après des étapes, hein, parce qu'il faut trouver un endroit pour dormir, donc vous pouvez pas dire à 2 km je m'arrête en pleine pampa, sauf si vous avez une tente, mais c'était pas mon cas. Donc voilà, faut s'écouter, et puis il y a une part de chance. Quoi.
Est-ce que vous pouvez nous donner les contacts de l'association pour ceux qui souhaitent plus de renseignements, ou ceux qui souhaitent justement votre témoignage, ou les témoignages des autres pèlerins ?
Alors, les contacts et les permanences, vous les trouverez sur le site Compostelle 72. Pour le Nord-Sarthe, il suffit de m'appeler, je vais vous donner mon mobile qui traîne partout, donc qui est pas du tout secret. Hein. Donc Jean-Yves Potier, je suis au 06 08 53 84 50, je répète, 06 08 53 84 50. Et si vous êtes un candidat pèlerin du Nord-Sarthe, bah appelez-moi, et puis on aura le plaisir de se rencontrer chez vous, chez moi, dans un café, où vous voudrez, et on pourra échanger là-dessus, et si ça vous intéresse, je pourrais vous transmettre mes mémoires de pèlerin.
Et est-ce que justement vous avez des projets au niveau de cette association ?
Alors on est en train de rénover les balisages, c'est l'équipe dédiée qui s'en occupe, parce que notre balisage a un peu vieilli, et vous savez ce sont parfois des petits autocollants, donc des fois ils se décollent, enfin bref. Bon, parfois il y a des petits malins qui s'amusent à les enlever, mais bon, peu importe, il faut de toute façon entretenir ce balisage. Et on va développer donc des relations, parce qu'on s'aperçoit que ces chemins sont très méconnus du grand public. Alors merci de contribuer à ce qu'ils soient moins méconnus, du grand public et des élus notamment, qui beaucoup s'intéressent, notamment dans les Alpes-Mancelles. Les élus s'intéressent beaucoup au tourisme de randonnée, au tourisme vert, etc. Et donc, évidemment, les chemins ont vocation à rentrer dans cette logique-là, mais avec leurs spécificités. Parce que, par exemple, pour la randonnée locale, souvent, ce sont des boucles qu'on fait en une journée, 2 jours, 3 jours. Nous, les pèlerins, eux, passent. Ils reviennent pas sur leur pas. Donc, ça pose d'autres problèmes, notamment d'hébergement, tel que je vous le disais tout à l'heure. Donc, faire connaître aux élus, au grand public. Alors, de temps en temps, on organise des marches, entre guillemets, publiques, pour reconnaître une partie du parcours, et donc, on s'adresse à la municipalité, l'office du tourisme, le club Génération Mouvement, le club de randonnée du coin, les associations diverses, en disant bah, venez marcher avec nous et vous allez découvrir un chemin de Compostelle pendant 20 km, pendant une journée, avec un pique-nique à la fin, etc. Et ça va permettre aussi de peut-être de susciter des vocations. Alors soit des vocations de pèlerins, soit des vocations d'hébergeurs aussi. On peut aussi avoir des gens qui disent « moi j'aimerais le faire, mais je suis trop âgé maintenant, etc. » Par contre, ça m'intéresse, on a une grande maison, les enfants sont partis, on pourrait héberger les pèlerins. Ça nous intéresse beaucoup si des gens souhaitent cette expérience, parce que derrière l'hébergement et le service rendu, c'est surtout un échange en fait. Un échange, vous savez, c'était la tradition. Dans la tradition médiévale, le pèlerin, c'était un peu l'image du Christ. Donc on avait le devoir de l'accueillir, et en repartant, le pèlerin disait à ses hôtes « Je prierai pour vous à Compostelle ». Voilà, c'est un peu cet échange qui s'inscrit donc dans une tradition évidemment religieuse, mais plutôt culturelle et historique, qui est très agréable, et les expériences de logement chez l'habitant sont toujours très intenses et très riches, pour l'un comme pour l'autre.
Oui, donc des vrais projets pour cette association Compostelle 72. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
D'abord, vous remercier de cet accueil et puis vous remercier de faire connaître cette activité. Encore une fois, nous vivons un peu en vase clos quand même. C'est un peu une réalité. Nous vivons entre nous, les jaquets, comme on les appelle, ou les biclos. Les jaquets, c'est Saint-Jacques, les biclos, c'est Mont-Saint-Michel. Donc ceux qui ont fait le chemin s'appellent les jaquets et les biclos. Alors d'abord, comme dans beaucoup d'activités, quand un jaquet rencontre un autre jaquet, quelle que soit la situation sociale, l'âge, le sexe et j'en passe, le tutoiement s'impose. Voilà, on est entre soi. Donc c'est vrai qu'on a un peu tendance à vivre entre nous. Donc il faut se faire connaître. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Et il faut qu'ils puissent nous identifier de façon à ce qu'on puisse, s'ils le souhaitent, s'ils y ont convenance, les aider à partir, les conseiller, les rencontrer. Simplement échanger, quoi.
Alors, monsieur Potier, je vous remercie. J'espère qu'à travers ce témoignage, cette interview, vous en aurez donné envie à d'autres gens de faire notamment ce pèlerinage. Je vous dis à bientôt sur notre antenne.
À bientôt. Et alors, je signale aussi que si des groupes sont intéressés, des groupes paroissiaux, des associations, des clubs-services, je peux aussi faire une petite conférence sur mon chemin de Compostelle. Je l'ai déjà fait une bonne dizaine de fois devant des Rotary Clubs notamment, ou des associations de ce type. Donc j'ai une petite conférence tout près de 3 quarts d'heure avec une quarantaine de slides pour expliquer un peu l'historique de Compostelle et un peu la façon dont je l'ai vécu. Donc c'est aussi une possibilité. Donc évidemment, cette conférence est tout à fait bénévole et gratuite. Hein. Ça va de soi. Je ne suis pas conférencier professionnel, mais voilà, donc à disposition. C'est aussi une façon de faire connaître.
Merci, monsieur Potier.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Votre magazine Vie solidaire est terminé. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Alpes-Mancelles. You can't rule another's heart. You can't get a love alone.